les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 3. Cette année-là, la sécheresse, lorsqu'il se réveilla, la matinée était déjà bien avancée. Il sentit une piqûre sur ses paupières, s'assit et se frotta les yeux. Voyant le disque solaire briller au-dessus de lui comme auparavant, il marmonna intérieurement « Je t'emmerde, toi et tes ancêtres, sur 8 générations. On verra si un jour je ne creuse pas ta tombe. » Puis, il vit le chien couché au milieu du champ, près de la culture. Il douta un instant, demanda « Y a-t-il une pousse ?» Le chien lui adressa un léger hochement de tête. Il descendit la pente. Arrivé au pied de maïs, il vit en effet qu'à côté de la jeune pousse, pareil à un navet, un nouveau bourgeon était apparu. Semblable à un bourgeon de février, vert et rouge comme de l'eau, de la longueur d'une phalange, tendre et lustré comme une pièce de jade sous le soleil, si délicat qu'on aurait pu le faire tomber rien qu'en l'effleurant. Il se mit en quête d'une branche afin de couvrir la nouvelle pousse, fit un tour près du ravin pour en revenir les mains vides, s'arrêta près du four, saisit sa houe pour accrocher une longue branche de sophora qu'il vint enfin déposer au-dessus de la nouvelle pousse. Puis il grimpa jusqu'à la cabane, prit son vêtement qu'il étendit au-dessus de la branche, de sorte que l'abri soit un peu plus frais et ombragé. Il dit, il ne devrait plus y avoir d'incident. Il dit, l'aveugle, allons manger. Qu'allons-nous manger ? Il dit encore, qu'y a-t-il à manger de bon matin ? On va se faire une soupe de graines écrasées et on prendra un vrai repas à midi. Lorsque la nouvelle pousse de maïs vit croître sa 2e feuille, l'aïeul retourna au village pour chercher de la nourriture. Il n'avait plus rien chez lui. Il pensa que, dans un si grand village, il devait bien rester dans chaque maison une poignée de blé dans la jarre à blé et une pincée de farine dans le pot à farine. Cela suffirait à les sauver de la famine, lui et son chien. Mais lorsqu'il arriva au village, il s'aperçut que toutes les portes étaient fermées. Il se trouvait comme pris dans une immense toile d'araignée. Il se rendit chez lui. Il savait parfaitement que sa jarre était vide, mais il se pencha tout de même au-dessus, y introduisit une main pour tenter de racler le fond, puis la retira, se lécha les doigts. Le goût de la farine pure fondit aussitôt sous sa langue et se répandit dans tout son corps. Il prit une grande inspiration pour en savourer la substance, puis sortit dans la rue. Un rayon oblique dispensait un fluide doré et mouvant. Dans la profondeur du silence, on entendait le grésillement de gouttes lumineuses sur les auvents. Il pensa, il ne reste plus personne. S'il ne meurt pas brûlé par le soleil, un voleur mourra de faim. « Je vous emmerde tous. C'est pour vous prémunir contre moi, l'aïeul, que vous avez fermé vos portes. Plus vous m'en empêcherez, et plus je serai capable de forcer vos serrures et d'escalader vos murs, dit-il. Il y a bien une maison dans laquelle il reste du grain. Sinon, que mangeront-ils à leur retour ? Et pourquoi auraient-ils fermé leur porte ? Il fit halte devant le seuil d'une maison, celle d'un neveu qui portait le même nom que lui, avança jusqu'à une autre maison, celle d'une veuve. Quand elle était jeune, la veuve lui confectionnait chaque hiver une paire de bottes fourrées de laine. Elle était morte, son fils habitait là. Il se laissa gagner par la douceur que lui avait apportée cette maison à cour carrée, et toutes ces années vécues lui revinrent soudain en mémoire, emplissant le vide de son cœur. Il resta là un moment, à fixer la porte, avant de reprendre son chemin silencieusement. Ses pas ne produisaient aucun bruit et retentissaient tout à la fois. C'était comme le choc sourd d'arbres abattus dans une forêt profonde. Cela résonnait, on aurait dit un vieux bateau glissant, tirant à sa suite les maisons du village. Il était déjà midi, il fallait songer au repas. Le chien est là. Alors, ça va, bredouilla-t-il. Il n'a qu'à me dire quel mur escalader et je le ferai. Il cria face à la montagne. L'aveugle ! L'aveugle ! Dis-moi dans quelle maison je dois aller chercher du grain ! Il n'obtint aucune réponse, sinon celle de l'immensité muette. L'homme perdit courage. Il s'assit pour fumer la pipe, puis reprit la route, les mains vides vers son champ. Le chien, qu'il avait entendu de loin, remuant la queue, accourut vers lui et se mit à traîner dans ses jambes. L'aïeul n'y prêta pas attention. Il se dirigea vers le sophora pour y prendre sa houe, vers la cabane pour y prendre un bol, et commença à retourner la terre en partant du début du champ. Au troisième coup de houe, deux grains de maïs émergèrent, intacts et brillants, brûlant de soleil. Il se mit alors à retourner la terre en respectant l'intervalle d'origine de la semaison. À chaque coup de houe, il dénichait un ou deux grains. Après avoir peiné sur environ la moitié de l'arête montagneuse, il put remplir son bol à ras-bord. Il fit un repas de grains de maïs sautés. À ce moment-là, tandis qu'il se nourrissait, installé, lui et son chien, à l'ombre de la cabane, l'aïeul étouffa un rire solitaire. « Ils m'ont tous laissé de quoi manger dans leur champ, » dit-il. « Il suffit que je retourne la terre une journée et nous aurons de quoi manger 3 jours durant. » Cependant, lorsqu'il se mit au labeur dans un autre champ, il se rendit compte que ce n'était pas si simple. Il ne savait pas comment les autres avaient manié la houe, à quels intervalles ils avaient semé. Beaucoup de familles s'étaient empressées de semer avant la pluie, et tout le monde s'y était mis, les enfants aussi, creusant la terre, chacun à sa manière, chacun selon ses forces, à intervalles différents. C'était une sacrée pagaille qui différait de loin de la régularité avec laquelle l'aïeul avait œuvré dans son propre champ. Auparavant, jamais aucune famille n'aurait laissé les enfants manier la houe, mais avec cette sécheresse, tout avait été chamboulé. Il n'était plus question qu'une seule journée de travail suffise à les nourrir 3 jours, lui et son chien. Il se mit au travail et sua un jour durant. Quand tout allait bien, il pensait qu'il pourrait tenir 2 jours. Quand tout allait moins bien, il pensait qu'il tiendrait 1 jour. Le jeune maïs poussait de plus en plus. La nuit venue, ses feuilles bruissaient très légèrement. Cela ressemblait à la respiration d'un bébé profondément endormi. Ce soir-là, l'aïeul et son chien s'étaient assis près de la plante, se reposant après une journée de labeur. À écouter sa respiration, ils sentaient leurs articulations et leurs os mollir et se détendre. La lune apparut, avec sa face féminine, suspendue au sommet de la voûte céleste, de claires étoiles autour d'elle. On aurait dit les boutons d'un vêtement de fête cousu sur une étoffe de soie bleue, incomparablement vaste. L'aïeul interrogea le chien. Il dit « L'aveugle, quand tu étais jeune, combien de chiennes as-tu connues ?» Le chien le regardait sans comprendre. Il dit « Dis la vérité, l'aveugle, il n'y a personne d'autre que toi et moi ici. Tout est tranquille. » Le chien continua à le regarder sans comprendre. « Tu ne veux pas parler ? Tant pis. » L'homme poussa un soupir. Un peu déprimé, il alluma sa pipe. Face à l'obscurité, il dit « Comme c'est bon d'être jeune, d'avoir un corps fort et une femme la nuit. Si la femme est intelligente, au retour du champ, elle t'apporte de l'eau, et si ton visage est en sueur, elle te passe un éventail. Les jours de neige, elle te chauffe le lit. Si, durant la nuit, vous vous êtes retrouvés et que tu te lèves tôt le matin pour aller au champ, elle te dit de te reposer encore un moment. » Vivre de cette façon, il inspira énergiquement une bouffée de sa pipe, puis expira longuement, caressa le chien et poursuivit. Vivre de cette façon, c'est vivre comme les immortels. Il demanda « Tu as eu ce genre de vie, toi, l'aveugle ?» Le chien demeura silencieux. Il dit « Qu'en dis-tu, l'aveugle ? Est-ce que ce n'est pas pour ce genre de vie que les hommes viennent au monde ?» Il ne laissa guère au chien le loisir de rétorquer, se répondit immédiatement à lui-même « Certainement. » « Je dis que oui. » Puis il dit encore « Mais quand on est vieux, c'est différent. Quand on est vieux, on vit seulement pour un arbre, un brin d'herbe, des petits enfants. C'est toujours mieux de vivre que d'être mort. » Il s'interrompit pour aspirer une bouffée de sa pipe à la lueur de laquelle il regarda le jeune maïs. Il entendit alors le très léger bruissement s'étirer tendrement près de son oreille. Il regarda de plus près, vit qu'au sommet de la plante, désormais plus haute que le genou, depuis la touffe orangée, ébouriffée, une nouvelle pousse avait surgi, aussi ronde qu'une flûte de saule. 9 feuilles déjà détachaient distinctement leur arc sur le jeune pied. L'aïeul se leva, prit sa houe pour creuser un trou auprès de la culture. Lui et son chien y urinèrent, puis il y versa 3 bols d'eau, recouvrit le trou, continua à manier la houe pour entourer la plante d'un petit rempart de terre. Il craignait qu'un nouveau coup de vent ne vienne encore l'endommager. Il se rendit la nuit même au village pour y chercher 4 nattes de roseaux. À un peu plus d'un mètre du maïs, il enfonça 4 pieux autour desquels il disposa les nattes, de sorte que le jeune pied de maïs fut bien protégé, comme par le mur d'une cour carrée. Au moment d'assembler les nattes, il dit « L'aveugle, va au village me chercher de la corde ou n'importe quoi qui puisse servir à attacher. » Le chien se mit en route, cherchant son chemin à tâtons. Il revint lorsque les ténèbres commençaient à se dissiper, des lambeaux de chapeau dans la gueule, des lambeaux du chapeau que l'aïeul avait déchiré. L'aïeul en utilisa les bandes pour fixer les nattes sur les pieux. Cela ne suffisait pas. Il se servit encore de sa ceinture de pantalon. Quand il eut achevé son ouvrage, un voile de lumière blanche commençait à se répandre depuis l'est. Dans la lumière encore terne de l'aurore, ce carré de nattes ressemblait à l'un de ces jardins potagers que l'on voit devant les maisons de riches paysans. Le pied de maïs se dressait là, comme un mât, témoignant d'une vie digne et aisée, ne manquant de rien, protégé par une ombrelle de nattes lorsque le soleil était au zénith. Aussi poussait-il à toute allure, et quelques jours plus tard, dépassait déjà la hauteur de son abri.